Ah, c'est bon,
mais...
Ah, on attrape tout le monde.
Attends, ils sont les petits, là. Il y a les petits.
J'ai pas envie d'être mouillée. Et ça. Oh.
Le journal de la création. Le journal de la création.
Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Et n'oubliez pas, retrouvez-nous samedi 23 novembre au Petit Robespierre.
Et retrouvez également l'exposition Radio Cartable 40 ans de bonnes ondes à l'espace Gérard Philippe jusqu'au 14 février 2025.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Xavier Lecomte, qui a réalisé le montage de cette émission et que je salue très chaleureusement. Notre invité est Laurent Benegui. Il vient de publier Les étoiles doubles aux éditions Julliard. Laurent Benegui a publié 15 romans. Il a notamment remporté le Grand Prix de littérature policière pour La paresse de Dieu et le prix de l'Académie Rabelais pour La part des anges. Aujourd'hui, il nous raconte la passionnante histoire de deux frères jumeaux, Cheng et Heng, nés unis par le sternum en 1811 au Siam. Leur notoriété planétaire est à l'origine de l'expression des frères siamois. Mais je vous laisse en présence de l'auteur qui va tout vous dire et vous présenter ce formidable plaidoyer pour le droit à la différence. Laurent Bénégui, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier Les Étoiles Doubles. C'est votre 16e roman ou 15e roman aux éditions Julliard. Et c'est un livre assez fascinant sur l'inné et l'acquis, sur comment on vit avec cet autre qui est en nous, ou qui est peut-être avec l'altérité, j'allais dire. C'est l'histoire de deux frères siamois, deux jumeaux nés à Siam en 1811, je crois, qui étaient liés par le sternum, et ils s'appelaient Yin et Yun, et après ils vont s'appeler différemment. Alors d'où vous est venue cette idée, Laurent Bénégui, qui est quand même assez fascinante? Est-ce que le terme frère ou sœur siamois, ça vient de ces deux personnages?
Alors oui, alors l'idée m'est venue un jour en voyant un petit reportage sur leur histoire, hein, puisqu'ils ont vraiment existé. Ils sont nés en 1811 à 70 km de Bangkok, et comme vous l'avez dit, liés par le sternum. Et à l'époque, leur destin absolument incroyable, et la notoriété qu'ils ont acquise tout au travers de la planète a fait qu'on a nommé en fait cette anomalie de naissance qui est lorsque deux jumeaux sont fusionnés. Eux, c'était par le sternum, mais pour d'autres, ça peut être par d'autres endroits du corps. On les a nommés des frères ou des sœurs, d'ailleurs, siamois, puisqu'ils étaient nés. À l'époque, c'était l'empire, le royaume du Siam, qui aujourd'hui est devenu la Thaïlande. Et donc, quand j'ai eu connaissance de cette histoire, j'ai trouvé qu'elle résonnait de manière incroyable avec beaucoup de choses de notre époque, effectivement, sur la question de l'altérité. Vous disiez comment on vit avec l'autre qui est en nous, ou, j'ai envie de dire, là, dans leur cas, qui est juste à côté, hein, puisqu'ils ont été tout au long de leur vie intimement, plus qu'intimement, fusionnés, et que malgré ça, ils ont réussi à avoir une vie qu'on qualifierait de normale, et qu'ils ont surtout surmonté tous les obstacles liés à l'altérité. Et en fait, c'est vraiment ce roman, pour moi, c'est le récit d'une acquisition du droit à la différence, à être différent. Voilà pourquoi ça m'a intéressé.
Alors, c'est une histoire assez fascinante, hein, je dois dire. Et alors, vous citez en exergue cette phrase de Montaigne: nous appelons contre nature ce qui arrive contrairement à l'habitude. Il n'y a rien, quoi que ce puisse être, qui ne soit pas selon la nature, que cette raison universelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouveauté nous apporte. Pourquoi cette phrase de Michel de Montaigne? Est-ce que ce livre aussi, enfin, vous venez de me répondre d'ailleurs, est-ce que c'est un éloge de la différence, de la singularité, et du devenir, d'ailleurs? C'est une seconde chose, ces deux frères, siamois, ils ont droit, ils cherchent leur seconde vie, leur seconde chance.
Ouais, alors je dirais qu'ils cherchent leur chance, tout simplement. J'ai envie de dire, comme chacun, en fait. Hein. Montaigne, cette phrase de Montaigne, parce que elle est au cœur du débat dans ce roman. Est-ce qu'au fond, deux êtres qui naissent avec une partie de leur corps en commun sont nature ou contre-nature? Il faut se dire qu'à l'époque, et d'ailleurs selon la région du monde, disons que en Orient, quand ils étaient au Siam, ce genre d'anomalie était accueilli sous le regard de la religion ou de croyances divines, de malédictions que les dieux pouvaient apporter au pays à cause de ça. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés à mort à leur naissance. Et puis chez nous en Occident, on a une vision plus prosaïque, mais dans tous les cas, ça reste une anomalie. C'est le passage d'une comète, c'est est-ce que leur mère a couché avec deux hommes en même temps, et tout ça fait que tout le monde se pose la question de savoir s'ils sont de la nature ou contre nature. Et dans le roman, j'essaye d'apporter une pierre à ce jardin-là, bien labouré par Montaigne. Et effectivement, l'idée, c'est que ils sont tout à fait naturels, puisque justement, la nature, il y a un grand scientifique de l'époque, qui est Geoffroy Saint-Hilaire, qui dit que la nature est une chaîne de montage, et que le fait qu'il y ait une anomalie de temps en temps n'invalide pas l'ensemble de la chaîne, et qu'au contraire, cela démontre donc l'erreur fait partie en fait de la production, si je peux dire, des êtres humains, et donc ils sont bien naturels. Alors c'est important, ce débat, parce que c'est un débat un peu aux limites de la philosophie, mais par rapport aux personnages, c'est un débat hyper important, à savoir que même dans la vie, pour s'en sortir, Inès, donc, quand même frappée de cette anomalie, condamnée à mort par le roi du Siam, et ils ne vont dans un premier temps survivre que par l'amour de leur mère. Et très très vite, dès qu'ils vont acquérir la raison, va se poser la question de savoir s'ils sont nature ou contre nature. Autrement dit, est-ce qu'ils ont le droit de s'aimer, de s'apprécier et de s'estimer eux-mêmes? Et ça, ça va être la première étape de savoir qu'ils sont au fond comme les autres avec une erreur et non pas fondamentalement différents des autres. Alors l'erreur, c'est cette anomalie qui se produit pendant la gestation, l'aléa au cours du développement embryonnaire. Et d'ailleurs, à ce propos, évidemment, si plus l'aléa est selon l'endroit où le corps est fusionné, c'est on peut vivre ou pas avec ce genre d'anomalie. Hein. Il y a eu des cas évidemment pas vivables. Et puis ça se passe, je rappelle, à une époque où la médecine permet pas encore de savoir par l'échographie ce qui va naître aujourd'hui. Soit on a les moyens d'opérer, soit on interrompt les grossesses comme ça. Quoi.
Les étoiles doubles, c'est un beau titre. Pourquoi ce titre?
Alors c'est un titre. Une étoile double, c'est un phénomène qui existe en astronomie. C'est quand deux étoiles sont si proches que leur destin est lié par la force de la gravitation et qu'elles sont donc des destins indissolublement liés, comme mes deux personnages, et que quand on les observe de loin, on croit ne voir qu'une étoile. Et donc je trouvais que c'était une très jolie métaphore par rapport à ces deux stars, parce que ils vont devenir des stars mondiales à l'époque, et le fait qu'ils soient que selon qu'on les considère de près ou de loin, on les voit uniques ou doubles, je trouvais ça très intéressant.
D'autant que la lumière d'une étoile met longtemps à nous parvenir, et c'est vrai que ils vont être des bêtes de spectacle, comme on dit. Hein. Alors vous parlez, c'est une singularité à deux têtes, votre livre, votre roman, Laurent Benegui. On pourrait dire que c'est un duo perdant au départ qui devient vite un duo gagnant. Voilà ce que vous écrivez, cette stupéfiante capacité à se dépasser physiquement, trouver son origine dans leur fusion mentale, dont on voyait un effet flagrant dans la pratique des échecs. Nock leur avait enseigné les rudiments. La communauté chinoise y excellait tout autant qu'au jeu de Go, et rapidement ils avaient maîtrisé les arcanes du jeu au point de battre leurs aînés et de commencer à mettre leur mère en difficulté. À deux, c'est plus facile que seul, semblait-il. Donc, ils apprennent à vivre ensemble. C'est très important, ça. Parce qu'effectivement, quand on est lié, qu'on peut pas se séparer, c'est pour la vie, là.
Alors, il faut, oui, juste pour préciser pour vos auditeurs, donc ils naissent liés par le sternum sur 10 cm, hein, ils sont pas collés complètement, et leur mère va les assouplir, leur faire une sorte de gymnastique, et peu à peu, alors qu'ils naissent, nous pouvons voir qu'ils sont face à face quasiment, peu à peu ils vont se mettre face au monde, côte à côte tous les deux, et ils vont vivre comme ça toute leur vie. En fait, ils sont plus intelligents que la moyenne, ou alors c'est leur étrangeté qui les force à devenir plus malins. Et physiquement, assez vite, on remarque qu'ils ont une sorte de don. Ils apprennent à nager, à courir, ils soulèvent des poids, ils ont finalement quatre bras, si on peut dire. Et toute leur étrangeté se mue en don, puisqu'ils sont obligés aussi pour survivre d'être plus forts, plus intelligents. Ils apprennent à jouer aux échecs et ils ont une sorte de c'est comme un double cerveau qui joue aux échecs. Et ils deviennent très vite plutôt assez supérieurs aux gamins de leur âge. Et c'est le début, le chemin vers leur liberté, vers leur indépendance, à mesure qu'ils acquièrent aussi une capacité de raisonnement bien supérieure à la moyenne. Je pense que si on avait pu leur faire un test de QI, il aurait été tout simplement au-dessus. Et alors, soit poussés par leur anomalie, soit tirés par elle, je ne sais pas, ils deviennent peu à peu des êtres au-dessus du commun, en tout cas. Ils passent de en dessous du commun, à cause de ce qu'on appelait à l'époque leur monstruosité physique, à au-dessus du commun. Et ça va non seulement leur sauver la vie, mais ça va leur faire découvrir le monde bien plus vite qu'aux autres gamins du Siam à leur âge. Ils vont voyager, ils vont être emmenés aux États-Unis, quasiment vendus par leur mère, et là, ils vont connaître un destin fulgurant, un épanouissement total.
Alors, auparavant, il y a l'amour de leur mère, hein, qui est quand même très important. Et ils vont être reçus par le roi, je crois.
Oui, alors le roi du Siam, d'abord, les condamne à mort, parce qu'il a peur que l'anomalie apporte la malédiction sur son royaume. Et puis, en fait, ça tombe un peu aux oubliettes, il y a un juge qui s'en mêle, et finalement, on estime qu'ils sont pas si dangereux. Et puis, on se rend compte, c'est le début de la presse, si je peux dire, en Occident, et vient en Orient l'idée qu'il y a d'abord là-bas des gazettes, des journaux, qui racontent des faits divers, des faits communs, alors que à cette époque-là, au Siam, les écrits sont purement religieux. On apprend, en lisant un peu ces publications qui viennent d'Occident, qui a déjà eu des cas de Siamois en Angleterre, en Écosse. Et au fond, ils se rendent compte que ça n'a pas précipité ces pays-là dans la destruction et la catastrophe. Alors, ces deux gamins qui sont nés au Siam sont peut-être pas si toxiques que ça. On les laisse vivre. Mmh. Et puis après, il y a un deuxième roi qui est lui à l'intelligence, parce qu'on lui a parlé de ces deux joyaux du Siam, de les considérer comme tels. Et il les fait venir à la cour. Et il est extrêmement impressionné par les réponses que Yin et Yun apportent à ces questions. Il se dit qu'au contraire, il pourrait en tirer profit, il les envoie en ambassade, en accompagner une ambassade qui va en Cochinchine, vers l'empereur, alors aujourd'hui ce serait le Vietnam, où le roi du Siam a des choses à discuter. Et la présence de ces deux enfants merveilleux va être un atout pour la réussite de l'ambassade et va faire d'eux, en fait, des vedettes au Siam. Alors que finalement, donc en gros, quand ils ont 14-15 ans, ils sont devenus déjà des petites stars là-bas dans leur pays, alors que, donc, je rappelle, ils étaient condamnés à mort il n'y a pas si longtemps, quoi. Et ça les éveille. Ils voient, par exemple, ils ont vécu toute leur vie persuadés que le Siam était la plus grande nation du monde, et quand ils arrivent en Cochinchine, ils trouvent que c'est encore plus magnifique, les palais sont encore plus grands, les navires sont encore plus grands, ils assistent à des combats de tigres et d'éléphants, et ils se disent, ça les aide à relativiser et à se dire, alors, au-delà de nos frontières, il peut y avoir mieux, et c'est ça qui va aussi les inciter à voyager.
Alors on voit la réaction face à une monstruosité, une anomalie, hein, une anomalie. Un murmure de surprise parcourut aussitôt l'assemblée. Les jumeaux se regardèrent et comprirent qu'ils avaient dit les têtes de ton esclave au lieu de la tête de ton esclave. Inconsciemment, ils étaient présentés tels qu'ils étaient, dotés d'un double corps. Après, par exemple, on peut lire encore, sire, dans de nombreuses situations, l'existence à deux est plus facile que seule. Ils ne sont pas seuls, ça c'est sûr, mais chacun a son caractère, hein. Vous dites, Chang se révélait davantage matérialiste, porté sur les plaisirs de la vie et plus sociable. Heng était plus réfléchi, avide de lecture et des nourritures de l'esprit. L'adoption de nouveaux noms n'étant pas étrangère à l'accentuation de leur individualité. Il faut dire que bon, ils vont changer de nom parce qu'ils vont devenir des bêtes de spectacle. Ils vont être vendus, hein, à dénommé une terre.
Voilà. Donc quand ils approchent les 18 ans, ce Hunter, qui est un marchand écossais, c'est l'époque où le Siam s'ouvre à l'Occident, les a repérés, les a vus, et lui, il a en tête une chose, c'est qu'avec ces deux gamins-là, il peut faire plein d'argent, quoi. Et donc c'est l'époque où aux États-Unis, c'est l'époque du début du cirque. Les gens aiment les bizarreries. Ça va bientôt être Barnum qui a inventé le cirque tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous savez, c'est la femme à barbe, Tom Pouce, et donc. Les gens sont avides de sensationnel et des gens gagnent beaucoup d'argent en montrant comme ça soit des véritables anomalies, soit des anomalies fabriquées. Et là, quand Hunter voit les deux jumeaux et qu'il voit une telle marchandise exportable aussi bien dans son pays, il va tout faire pour les séduire, devenir leur ami, leur promettre monts et merveilles en Occident, donner un peu de fric à la mère et finalement les emmener avec un complice, un camarade, un associé, à vrai dire, ils se partagent 50-50 les revenus, Coffin, qui a un navire, et ils les emmènent, ils arrivent à Boston, en gros quand ils ont 18 ans, et là tout de suite on les montre, et on les exhibe, et c'est un succès phénoménal immédiat parce que ils attirent évidemment à cause de leur anomalie les gens avec une curiosité malsaine, mais quand les gens arrivent, ces deux gamins ont du répondant comme je le disais, ils sont très intelligents, ils ont quasiment appris à parler l'anglais pendant la traversée en bateau, pendant en 5 mois. Donc ils parlent anglais, ils ont de l'humour, ils sont forts. Et l'engouement en fait du public de Boston est immédiat. Les journalistes s'en emparent, des articles de presse sortent, dont certains qui mettent en doute la véracité du phénomène. C'est pas possible, c'est des faux, etc. Donc ils font venir des médecins qui certifient que ces enfants sont vraiment unis par le lien de chair, et commence la grande question qui va traverser toute leur vie. Qu'est-ce qui passe entre eux, hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un organe? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a des nerfs dans ce lien de chair qui les unit au niveau du thorax? Et Hunter, aujourd'hui on pourrait dire leur impresario, un très véreux, utilise ça, puisque il en profite pour demander si on peut les séparer chirurgicalement. Évidemment, les médecins répondent oh là là, mais on n'a aucune chance d'y arriver à cette époque. La chirurgie est tout à fait embryonnaire. L'anesthésie n'existe pas au début, hein. Et donc il est décrété qu'en fait on pourra pas les séparer. Pauvres airs. Et cette espèce de commisération, de prise de pitié accentue encore le succès. Tout le monde vient voir ces deux enfants qui vont être si malheureux d'être condamnés à vivre ensemble, alors qu'eux vivent très bien le fait d'être ensemble. Ils sont nés comme ça, ils s'en sont sortis, ils ne s'envisagent pas autrement, du moins au début de leur vie. Et pour revenir sur le début de votre question, moi, mon travail de romancier, il y a des éléments factuels qui existent, qu'on peut trouver même sur Internet, sur eux, hein, sur leur vie. Mais personne n'est jamais rentré dans leur tête. Et donc, je trouvais ça très intéressant de leur brosser deux caractères très différents. In et June qui deviennent Eng et Chang, parce que Hunter trouve que c'est plus commercial de les appeler comme ça. Et c'est sous ce nom-là qu'ils sont connus. Chang et Eng, plus tard, ils prendront le nom de Bunker, leur nom de famille. Ont deux caractères. Moi, je les ai fait passer du début du roman où ils sont comme une sorte de personne à deux têtes, parce qu'au fond, je me suis dit, quand on est déjà des jumeaux, des stimulations extrêmement proches qui font que, soumises aux mêmes stimulations, ils ont tendance à réagir de la même manière, mais en plus deux jumeaux fusionnés, et donc c'est la vie, ce sont les expériences de la vie, la confrontation avec l'autre, qui va peu à peu les individualiser. J'ai envie de dire dans ses bénéfices, mais aussi dans ses handicaps, puisque, non pas handicaps physiques, mais les handicaps de la vie et de la manière dont les gens les regardent, parce qu'ils vont être très vite soumis à d'autres ostracismes. Au début, c'est la monstruosité physique, mais aussi, ils sont d'origine asiatique. Il y en a très peu aux États-Unis à l'époque. Les seuls étrangers, si je peux dire, que les Américains voient, ce sont des Afro-Américains. Mais des Asiatiques, il y en a pas. Le chemin de fer n'est pas vraiment construit. En fait, on sait pas bien ça, mais l'immigration chinoise aux États-Unis, c'est plutôt un peu plus tard, avec l'arrivée du chemin de fer. Et donc, ils sont moqués pour leur couleur de peau. On va s'interroger sur leur religion. Ils sont plutôt d'origine bouddhiste. Alors, les gens se posent des questions très métaphysiques. Alors, si l'un d'eux, puisque maintenant ils sont aux États-Unis, venait à se convertir au christianisme, et que l'autre restait bouddhique, que ferait Dieu le jour de leur mort? Il accueillerait le bouddhiste, ou bien il le refuserait. Mais s'il le refuse, alors ça veut dire qu'il accuse pas, il accueille pas le frère chrétien. Donc c'est à la fois assez amusant de voir les questions que se posent en permanence les gens sur eux, et la manière dont eux s'émancipent et se forment peu à peu. Leur esprit se construit différemment en fonction de tous ces stimulus qui arrivent, qui sont plus variés, quoi.
De plus en plus variés, voilà ce que vous écrivez. Tout se déroulait comme si leur mouvement résultait d'une intention unique. Intrigué, il avait fait l'expérience de pénétrer dans leur cabine pendant leur sommeil, et en touchant l'un, il avait réveillé l'autre. Non seulement Coffin ne s'étonnait plus du phénomène, mais il voyait une opportunité supplémentaire d'enrichissement. Et comme il leur proposait un verre d'eau, évidemment, ils s'en saisirent conjointement. Alors comment faire un tout en étant deux? Comment faire deux tout en étant un seul? C'est le problème un peu du sujet et de l'objet, hein. Vous jouez beaucoup là-dessus, Laurent Benegui.
Oui, avec cette notion de dynamique, c'est-à-dire que peu à peu, les stimulus les transforment. Ils sont pour moi vraiment des sujets, en fait. Alors que pour les personnes qui payent à l'époque 50 cents pour aller les voir, ils sont des objets. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que, à mesure de leur notoriété grandissante, puisqu'après Boston, ils vont aller à New York, puis ils vont faire d'autres villes des États-Unis avant d'attaquer, si je peux dire, l'Europe. À mesure de leur notoriété grandissante, ils vont changer dans le regard des gens. Et parfois, d'ailleurs, pour que ça change, ils n'hésitent pas à jouer du poing ou à répondre, à se moquer à leur tour des gens qui éventuellement se moqueraient d'eux. Et donc, ils acquièrent une identité tout à fait propre dans cette première partie de leur vie aux États-Unis.
Alors, il y a vraiment des scènes, hein, de films. Je veux dire, c'est votre expérience de scénariste aussi à jouer dans vos romans ?
Alors, je sais pas. Ouais, j'ai fait des films aussi, mais. Je pense que c'est plutôt ma manière de voir les histoires quand j'ai envie de les raconter et qui font que j'ai aussi fait du cinéma. Je pense pas que c'est le cinéma qui a déteint. Je me sens plus aujourd'hui romancier et je crois que c'est une manière de particulière de me représenter le monde par des images. Et puis par rapport à un tel sujet, mes romans sont pas tous ancré comme ça dans l'histoire, mais là j'ai senti la nécessité de faire voir à mes lecteurs ces choses qui sont qui nous sont moins habituelles, qui est cette époque, le Siam, les années, le 19e siècle, la révolution industrielle aux États-Unis. Donc je me suis attaché à bien rendre compte des atmosphères.
Des atmosphères, des mouvements, ils deviennent d'ailleurs des objets de foire, hein, comme on l'a dit. On débattit de savoir s'ils étaient un ou deux, ou si eux-mêmes le savaient, ce qui provoqua le rire des frères, aussitôt salué par une clameur, tant leurs visages s'étaient animés conjointement. Un prêtre demanda s'ils étaient catholiques. Donc, la curiosité, objet de curiosité, leur singularité, ils ont une force et qu'ils vont exploiter cette singularité.
Oui, ils vont dans un premier temps. Il y a un premier temps de découverte. Tout d'un coup, ils découvrent l'Occident, un mode de vie très différent, et ils aiment ça. Et peu à peu, ils se rendent compte qu'ils sont exploités. En fait, ils sont privés de tous leurs droits. Ils sont peu à peu réduits à l'état d'esclaves, puisqu'ils sont trimballés de ville en ville. Ils n'ont pas leur liberté de mouvement au début, puisque tout simplement Hunter et Coffin, qui gèrent leur vie, se disent que s'ils sortent et sont vus en ville, entre guillemets, gratuitement, c'est de l'argent qu'ils perdent, eux. Donc, en fait, ils sont quasiment enfermés, on les nourrit, ils arrivent au spectacle, ils font leur numéro, ils rentrent, et donc ils se sentent extrêmement frustrés, et ils commencent à déchanter assez sérieusement des promesses de l'Occident. Mais ils apprécient, ils sont pas insensibles quand il y a un article dans la presse qui les valorise ou de certaines rencontres qu'ils peuvent faire. Certaines femmes tombent amoureuses d'eux et à un moment donné, ils se rendent compte que ils peuvent prendre leur destin en main. Et là, c'est le début de leur grande émancipation, 2 ans à peu près. Après leur arrivée en Amérique, d'abord, ils se sentent déliés de leur promesse d'obéir, si je peux dire, à Hunter, et ils décident de casser le jouet. Ils décident de ne plus travailler pour Hunter ou Coffin et sa femme, et ils envoient tout balader. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que on pourrait se dire, oui, évidemment, ils étaient réduits comme ça à l'état d'esclaves, c'est normal qu'ils aient réagi, sauf que ce à quoi on ne s'attendrait pas forcément, c'est qu'ils continuent à mener la même vie, c'est-à-dire qu'ils continuent à s'exhiber, ils organisent leur tournée, mais cette fois-ci pour eux-mêmes, ils deviennent leur patron. Alors, c'est amusant de se dire que arrivés aux États-Unis, ils sont gagnés comme tout le monde par l'idée d'un libéralisme et aussi de la libre entreprise, mais c'est vraiment ce qui arrive, et ils deviennent riches et très riches, c'est-à-dire qu'en quelques années, ils travaillent autant qu'avant, mais maintenant c'est pour eux. Et ça veut dire que à la fois ils ont bien compris comment marchait l'Occident, et qu'en même temps ils n'ont aucune amertume à se montrer tels qu'ils sont et à quel point au fond ils s'acceptent eux-mêmes. Et du coup, les autres les acceptent d'autant plus. Évidemment, quand on sait que c'est eux-mêmes qui organisent, et alors ils font évoluer aussi leur spectacle. Ils sont par rapport à l'idée de passer d'objet à sujet, ils sont de plus en plus sujets. Il y a des moments, ils font un peu moins les pitres et ils communiquent plus avec le public. Et ils sont de plus en plus en fait en maîtrise de leur art, eux-mêmes étant à la fois l'élément artistique et l'élément qui crée.
On va faire une petite pause musicale, Laurent Benigui.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Laurent Benigui, qui nous présente Les Étoiles Doubles, qui viennent paraître aux éditions Julia. Alors, Laurent Benigui, on parle de ses frères siamois, Cheng et Heng, c'est ça? Moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est un peu, finalement, cette notion de personnage. Parce que, non seulement ils sont doubles, mais ils incarnent un personnage double. Et ils en jouent et ils s'émancipent aussi de ce personnage. Ils sont des personnages de spectacle. C'est comme s'ils avaient un déguisement et progressivement, ils l'habitent, ils l'incarnent et puis ils s'en défont aussi.
Oui, alors ils sont sur scène. Hein. Leur gagne-pain, c'est devenu eux-mêmes et se montrer aux autres, qu'ils assument donc complètement. Alors la question, est-ce qu'ils sont sur scène très différents de ce qu'ils sont dans la vie ? Jusqu'à un certain point, je dirais non. C'est-à-dire qu'ils se contentent de, ils se contentent un peu de, d'exploiter. Ce serait comme un acteur dont on dirait qu'il a un naturel absolument formidable et qui se, et qui joue ce qu'il est, quoi. La partition est quand même extraordinaire, hein, fusionnée par le sternum. Mais les expériences qu'ils font à l'extérieur de la scène leur amènent autant de gratitude, de bienfaits que celle sur scène. Puisque, par exemple, ils organisent eux-mêmes une grande tournée. Ils viennent en France pour la première fois. Alors c'est marrant de raconter ça parce que deux fois, une première fois, ils ont failli venir en France. Et la tournée a été annulée parce que l'administration, les politiques de l'époque étaient encore tout à fait sous le joug des superstitions. Et ils pensaient que si on montre à des femmes enceintes des choses anormales, ces femmes elles-mêmes auraient des enfants anormaux et qu'il ne fallait montrer aux femmes que de belles choses, aux femmes enceintes que de belles choses. Donc on sait aujourd'hui que la vie étant ce qu'elle est, les femmes enceintes ne voient pas toutes que de belles choses, c'est pas pour autant qu'il y a plus d'anomalies. Mais donc, dans une première fois, leur visite en France est annulée de peur qu'il y ait une sorte d'épidémie de monstruosité après leur passage. Et puis quelques années après, ils reviennent, là on voit, les mentalités ont évolué, grâce aussi à un scientifique français, Geoffroy Saint-Hilaire, qui fait admettre à tout le monde que ces deux enfants, enfin ces deux jeunes adultes sont différents de nous, mais sont absolument fabriqués selon le même mode que tous les êtres humains. Et donc, les frères Bunker arrivent en France, où là, ils vont sur scène faire un tabac, comme d'habitude, mais aussi hors de la scène, devenir des coqueluches, par exemple, du tout Paris de l'époque, et aussi bien des écrivains. Ils vont rencontrer Balzac, ils vont rencontrer Stendhal, des peintres, Delacroix, et ils vont rencontrer des artistes, et ils vont être élevés à un rang d'intelligentsia au-dessus de la moyenne, ce qui va aussi, eux, toujours dans l'idée qu'ils doivent continuer à s'accepter, quand même les conforter dans l'idée qu'ils ont raison d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils font. Et donc ils sont en permanence comme ça, soumis à des stimulus qui les élèvent. Voilà.
Alors, ce qui est alors ils disent par exemple, notre bonheur est d'être unis, c'est notre normalité. Ça, c'est Heng qui répond ça. Et puis la petite histoire rejoint la grande histoire. Alors, Geoffroy Saint-Hilaire, ça c'est passionnant, Laurent Benigui. Voilà ce que, poursuivant l'intuition de son père, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire était persuadé que l'existence de malformations de naissance n'était pas contre nature, mais qu'elle s'intégrait au contraire dans le processus normal de formation des hommes, à ceci près qu'un événement en avait influencé le résultat. Plus tard, vous écrivez, à Paris, Isidore affirma que tout être humain, considéré comme normal, était double à sa manière, puisqu'il était le produit de deux moitiés semblables, celle de gauche et celle de droite. Les systèmes se fondaient l'un sur l'autre. Donc, on voit aussi l'évolution de la science dans votre roman. La réflexion sur la dualité, sur, j'allais dire, le yin et le yang, on voit ça aussi, on voit que c'est frères siamois, ils arrivent à point nommé, on pourrait dire, parce que...
La science arrive à un point nommé, parce que la science, au moment, arrive à un point de développement qui va croiser leur vie à plusieurs reprises, donc évidemment avec Saint-Hilaire... qui a à l'époque fait un discours à l'Académie de médecine sur Chang et Heng, et qui a révolutionné le mode de pensée. Bon, vous venez de citer le passage. Et aujourd'hui, en fait, à cette époque-là, il a fondé les bases d'une science qu'on appelle la thératologie, qui aujourd'hui, en gros, à partir du moment où il a affirmé que les malformations venaient à un moment donné d'un aléa lors du processus de gestation, il en a fait une classification, une description. C'est l'époque où les naturalistes décrivent et classent les espèces, les races, ce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer qu'il n'y a qu'une race, par exemple, sur cette planète, ce qui est bien de rappeler de temps en temps. Et ben tout ça, ça vient de ces gens-là qui ont c'est pile l'époque. Il y a aussi des débats, il y en a qui sont pas d'accord. On est à quelques années quand même de Darwin et de sa théorie sur l'évolution de l'espèce. Donc Tout ça est en ébullition. Et je dirais, ceux qui ont émis les théories qui aujourd'hui sont reconnues, c'est-à-dire Darwin et Saint-Hilaire, disent les choses vraies qui concernent les jumeaux. Ils croisent la science à un autre moment de leur vie, c'est l'évolution de la médecine, de la chirurgie. C'est l'arrivée progressive, par exemple, quand ils ont 18 ans, il est impensable de les séparer chirurgicalement. Il se trouve qu'ils n'en ont pas envie, puisque effectivement ils sont tels qu'ils sont, heureux et bien, c'est comme ça qu'ils sont nés. Mais la question se pose tout au long de leur vie. Souvent, quand je parle du roman, c'est la première question qu'un interlocuteur me pose. Mais est-ce qu'ils sont restés ensemble toute leur vie? Alors, on va peut-être pas tout de suite vendre la mèche, mais de facto, la question s'est posée tout le temps. Et peu à peu, la science progresse et rend la chose faisable. D'abord, c'est l'époque où il y a des premiers essais d'anesthésie. On commence à utiliser le chloroforme, l'éther. Alors, évidemment, c'est pas appliqué aux jumeaux, mais il y a, par exemple, des premières, si on pourrait dire, tentatives d'accouchement sans douleur, pour utiliser le chloroforme pour atténuer les douleurs des femmes. L'éther, on se sert de l'éther pour certaines interventions, pour apaiser la douleur et donc abréger la durée de l'intervention aussi. Ce qui était capital à une époque où on n'a pas les moyens, on peut pas faire de transfusion. Souvent, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'à l'époque, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui va vite. Ouais. Donc entre eux, moi j'ampute une jambe en moins de 30 secondes. Ah, moi c'est 45. Mais ça peut faire la différence pour la survie du patient. Donc, arrive plein de choses. Le stéthoscope qui permet aussi d'entendre ce qui se passe à l'intérieur des corps. Et les bunkers sont tout au long de leur vie, Chang'an sont des très très bons clients, si je peux dire, pour les médecins. Toute leur vie, ils vont consulter des médecins ou des médecins vont vouloir les examiner avec toujours ce débat, double débat. Premièrement, qu'y a-t-il dans ce lien de chair qui les unit? Deuxièmement, peut-on les séparer? Et eux-mêmes vont évoluer, on va peut-être y revenir plus tard, ils vont évoluer sur l'idée de la séparation à mesure qu'ils vont vieillir et faire des rencontres dans leur vie. Et donc, l'ébullition de la science, à vrai dire, c'est le 19e siècle, c'est une époque d'ébullition. Peut-être que finalement la vie des humains sur cette terre est en permanence en ébullition et que mais tout se met en place, en tout cas par rapport pour devenir pour préparer l'ère moderne que nous connaissons aujourd'hui. Et donc ils sont évidemment à la croisée des chemins. Toutes les théories scientifiques farfelues s'affrontent aux théories scientifiques qu'aujourd'hui on sait être les bonnes, et ce sont des débats qui les concernent énormément.
Qui les concernent, et moi j'ai trouvé fascinant, même les mots scientifiques, vous expliquez, l'interprète hésitant sur la bonne manière de traduire tératologie en anglais. Saint-Hilaire expliqua qu'il avait emprunté le terme à un vocable grec signifiant récit de choses extraordinaires. Donc ça nous fait rêver en tant que lecteur ou lectrice. Vous écrivez par la suite, Cheng et Heng voulaient tout reconnaître de la classification de Saint-Hilaire qui leur révéla qu'ils étaient tératopages, catégorie qui regroupait des sujets complets unis par un pont anatomique pouvant se situer de la tête au bassin et qu'ils étaient plus particulièrement membres du sous-ensemble des xysopages. C'est-à-dire uni de l'appendice xyphoïde à l'omilique. Donc, on se régale de toutes ces avancées scientifiques qui ont beaucoup de poésie. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir aussi un personnage à quatre mains, un personnage double, c'est un défi pour un romancier?
Le défi, il est celui de leur mentalité. C'est-à-dire que, au fond, traiter de l'aspect physique du personnage, je trouve que c'est pas le plus difficile. La vraie question, c'est comment passer d'une sorte d'individuation, comment individuer leur mentalité, qui sont au début, forcément, quand ils sont à l'état de bébé, quasiment identiques, et qui vont sous les stimulus extérieurs, révéler finalement deux personnalités différentes. Ça, c'était une vraie question que je me suis posée sur la manière même d'écrire. Quel point de vue j'allais aborder pour écrire ce roman? J'ai fait des tentatives. Un coup, je pouvais parler en prenant la voix de Chang, un coup la voix de Heng, ou j'ai même pensé faire un récit alternatif. Et puis je me suis dit que tout ça n'avait pas de sens et qu'il fallait traiter ça d'une manière plus frontale. Donc un narrateur nous raconte Chang et Heng et peu à peu nous révèle nous fait la découverte de leur mentalité qui évolue, hein, c'est ce qu'on appelle le fameux point de vue du narrateur omniscient, donc je suis au-dessus, je sais tout, et donc je sais quand Chiang et Heng commencent à raisonner différemment, quand ils se disputent, quand ils commencent à ne plus penser pareil. Donc pour moi, le vrai défi, il était là, il était comment faire croire qu'au début ils sont quasiment ils ont quasiment des pensées identiques et comment peu à peu ils divergent.
Alors ils divergent, oui, et c'est vrai que oui, on a l'impression en tant que lecteur qu'ils avancent ensemble, qu'ils pensent ensemble. C'est ça le miracle du livre, parce qu'ils forment un personnage, ils sont deux mais ils forment un seul personnage. Il y a aussi l'émerveillement quand même, il y a des choses savoureuses sur les voyages. J'ai trouvé par exemple quand ils sont à Londres, je crois, quand on leur demande ce qui les étonnait le plus à Londres, Chang répondit sans délai, le nombre de corbillards. Donc il y a de l'humour, hein,
Alors l'humour, moi j'aime bien pratiquer l'humour dans mes romans en général, mais là ce sont eux qui ont beaucoup d'humour, c'est-à-dire que je pense que ça va avec leur capacité à tirer le meilleur de la vie dans chaque situation. L'humour, c'est une manière aussi de prendre du recul. Et si avec leur anomalie physique et le regard des autres qui est plutôt là en général pour les critiquer et les enfoncer, s'ils n'avaient pas d'humour, s'ils ne prenaient pas de recul, je pense qu'ils s'en seraient pas sortis dans la vie. Donc ils ont beaucoup d'humour. Un jour ils sont condamnés par un juge parce qu'ils ont cassé la figure à un type qui les embêtait. Le juge les condamne à $50 et Chang demande $50 chacun ou 50 pour les deux. Donc ils sont jamais dépourvus de rétorque dans leurs interventions.
Et ils ont l'art du rebondissement, c'est le cas de le dire. Alors selon vous, Monsieur Hell, conclut Heng, de quoi sommes-nous exclus, nous qui à 18 ans avons vécu deux fois notre âge? C'est toujours deux fois deux, quoi. Ils rebondissent. Alors là où ça va, où leurs caractères vont s'affirmer, c'est avec l'amour. Quand ils vont rencontrer deux sœurs, hein, Adélaïde et Sarah, qui ne sont pas des sœurs siamoises, qui sont même pas des sœurs jumelles, mais qui sont, je vais dire, les femmes de leur vie, si on peut dire, et ils auront ensemble, je crois, 21 enfants.
Oui, alors ça, c'est proprement incroyable. Alors, la rencontre de l'amour et la rencontre de ces deux femmes va aller de pair avec l'explosion de leurs divergences dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est super intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à un moment de leur vie, ils ont quoi? Ils ont une trentaine d'années. Ils ont fini d'engranger beaucoup d'argent après s'être exhibés pour leur propre compte. Et ils commencent à se dire que maintenant, ils ont assez d'argent pour finalement avoir le droit à goûter une vie plus paisible. Ils aimeraient retrouver quelque chose qui ressemble à ce qu'ils avaient au Siam, plus rural. Et donc, ils se trouvent un état de montagne, de vallée, un peu loin des villes, qui est la Caroline du Nord, qui est un état du sud des États-Unis. Et là, ils vont acheter une terre et ils vont essayer de se fondre dans la vie des citoyens d'une petite ville où ces deux sœurs résident. Ils vont les rencontrer à l'occasion d'un mariage. Et il y a quelque chose d'intellectuel, de l'ordre de l'humour aussi, qui va tout de suite rapprocher ces deux sœurs et ces deux hommes, et aboutir à une véritable histoire d'amour et à un mariage. Donc il faut très clairement imaginer ce que ça veut dire. C'est que dans cette société réactionnaire, quand même pré-bourgeoise, état du sud de l'Amérique, dans les années 1840-1850, quatre dans le même lit, ça se fait pas. Quatre dans le même lit, outre la monstruosité physique, même s'ils sont complètement acceptés dans un premier temps parce qu'ils ont de l'argent, donc ça en dit aussi beaucoup sur la société, ils sont, je le rappelle, ils sont pas blancs. Donc c'est presque ça d'ailleurs qui gêne le plus les bourgeois de l'époque, parce que dans ces états, ce sont que des gros propriétaires et on pratique l'esclavage. Donc plusieurs choses. D'abord, Chang et Heng qui veulent absolument s'inclure dans la société vont prendre des esclaves, c'est-à-dire que c'est quand même le comble. Eux qui ont vécu quand même toute forme d'ostracisme toute leur vie, pour s'intégrer à la communauté de cet état du Sud, et parce qu'ils ont de l'argent, ben ils vont faire comme tout le monde. Ils vont prendre des esclaves pour s'occuper de leur plantation. Dans le nord des États-Unis, on a des ouvriers qu'on paye, dans le Sud, on prend des esclaves. Ça, c'est la vie à l'époque normale, mais ça interroge beaucoup sur la complexité et les limites de la capacité humaine à réagir avec toutes ces questions de droit à la différence, d'altérité, où est-ce qu'on pose ses limites soi-même. Et donc, eux, en tout cas, vont certainement franchir. Ils se posent la question, hein, ils savent ce que ça veut dire d'être esclaves, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix et que pour épouser ces deux sœurs, il faut faire comme tout le monde, quoi. Et donc ils les épousent et ils vivent à quatre dans le même lit. Chaque frère a sa femme. Et ils auront 21 enfants. Et donc ils vont vivre ensemble quasiment 40 années de vie conjugale. Un couple va avoir 11 enfants et l'autre 10. Ouais. Et moi je me suis retrouvé face à un gros problème par rapport à ça. C'est que ce que je viens de vous dire, ça on peut le trouver, hein, qu'ils se sont mariés à telle date, à tel endroit, mais on ne sait pas comment ça se passait, ni d'ailleurs rien n'est dit quasiment sur ces deux femmes. Donc moi je me suis vraiment intéressé à les faire exister, c'est mon travail de romancier, c'était d'avoir les femmes pour trouver les hommes. Donc j'ai imaginé Adélaïde et Sarah, quel pouvait être leur tempérament, qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir d'anticonformiste, dans quelle mesure était leur amour pour ces deux hommes, pour imaginer cette histoire d'amour, et aussi leur sexualité. Et donc je voulais pas faire l'impasse sur la sexualité, c'était impossible, je fais l'impasse sur aucun aspect organique de leur vie. Et je voulais pas non plus écrire quelque chose qui pourrait choquer, rebuter ou disons poser des questions extrêmement. Alors j'ai pas mal réfléchi à ça et j'ai imaginé la manière dont se déroulait leur sexualité qu'on laissera découvrir au lecteur, mais en me disant ça avait pu se passer comme ça, et c'est comme ça qu'ils ont fait des enfants, et ça marche bien.
Alors c'est vrai, alors vous dites Adélaïde aimait l'amour, Sarah aimait l'idée de l'amour, si Adélaïde épousait Chung, Sarah se retrouverait au bras de Heng, cette fête allait lui donner l'occasion de vérifier une ou deux choses. Bon, et elles sont complémentaires, ils vont quand même évoluer, hein, ils vont évoluer, c'est-à-dire Heng avait remarqué que depuis leur mariage, les sœurs qui s'employaient autrefois à se singulariser dans leur manière de s'habiller, de se maquiller ou de porter des bijoux, était gagnée par un mimétisme grandissant. Donc ce quatuor, maintenant, ils vont évoluer et ils vont même faire une sorte de couple alterné, c'est-à-dire ils vont vivre au bout d'un certain temps de leur vie, ils vont vivre, je sais pas moi, 10 jours, ça sera tel couple, et puis deux autres semaines, ça sera...
Alors c'est toujours les mêmes couples, oui, officiellement. Ouais. Non, parce qu'ils vont être en fait confrontés, et comme ils ont beaucoup d'enfants, donc ils ont fini leur vie de forain, si je peux dire, avec un petit pécule. Donc ils achètent des terres et ils se marient, ils cultivent, mais ils ont vite un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, et donc la famille s'agrandit. Et ça coûte quand même de l'argent. Ça coûte de l'argent et ça commence à créer des tensions dans les couples. C'est-à-dire que les deux frères font tout en même temps, tout le temps, à peu près de manière synchrone. Donc, en gros, les femmes tombent à peu près enceintes au même moment et dans les premières années, les enfants naissent à peu près au même moment. Mais c'est compliqué à gérer dans le quotidien de leur vie familiale quand les deux femmes viennent d'accoucher, qui s'occupent des enfants et puis après, il y a des enfants en bas âge, puis des enfants en moyen âge. Comment faire pour gérer tout ça? Donc, dans un premier temps, ils se disent, on va désynchroniser nos rapports, on va s'arranger, disons, pour que l'une tombe enceinte quand l'autre est capable de s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants. Et donc, ça, on passe de naissances parallèles à des naissances alternées. Et après, se pose la question de l'éducation. Il y a un couple qui est plus pour l'école, l'autre non. Donc, ils prennent deux maisons, une qui est plus proche de l'école, et ils commencent à vivre. Donc, les sœurs vivent séparément avec leurs enfants dans chaque maison, mais les frères donc alternent. Et les frères vont tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et peu à peu commencent aussi à se faire jour des dissensions entre les frères. Donc c'est là où on voit qu'ils évoluent peu à peu d'une fusion à l'amour et disons des disputes de couple et des difficultés amoureuses vont faire que peu à peu ils vont envisager peut-être que ce serait mieux d'être complètement séparés. Et donc on en vient à l'idée de, pour la première fois, alors qu'ils sont donc maintenant des hommes mûrs, de se dire peut-être qu'il faut mettre un terme à notre compagnonnage de toujours, parce que ça devient très compliqué, nos vies amoureuses et familiales.
Alors voilà ce que vous écrivez. De nouveau, leur envie de manger survint aux mêmes heures. Ils s'endormaient simultanément, se réveillaient, satisfaisaient leurs besoins naturels ensemble et perdirent l'habitude de goûter des aliments différents. Devant les caprices de leur organisme, Cheng et Heng se trouvèrent tout autant questionnés par la nature qu'ils avaient envie de la questionner pour la raison même de leur présence parmi les hommes. Alors c'est vrai qu'ils s'accommodent plus ou moins de cet état de fait, d'autant plus que Cheng, je crois, a tendance plutôt à l'alcool. Enfin, il a une santé plus difficile, c'est ce qu'on va voir. On va pas tout révéler aux auditeurs, mais c'est vrai qu'il a pas la même santé que son frère, et qu'ils sont, alors on voit toujours, et c'est un peu le point de bascule toujours de votre livre, de votre roman, Laurent Benegui, c'est cette notion de séparation. Plus ils sont dans l'union avec la vie, plus ils ont envie de se séparer. Il y a un peu ce paradoxe, ils avancent en âge, et puis il va bien falloir un jour où, et c'est très bien rendu hein, dans votre roman, Laurent Benegui.
Oui, c'est quand même quand ils ont au moins 50 ans quand ça devient un vrai problème pour eux. Hein. Peu à peu, tout diverge, même les opinions politiques. Hein. On est juste avant la guerre de sécession. Il y en a un qui serait, on va dire, républicain, l'autre très démocrate aujourd'hui, et l'amour les oppose, l'amour et le rapport qu'ils ont avec leurs deux femmes les oppose. Il y a des jalousies sans tout révéler, et il leur vient l'idée, oui, que finalement on pourrait dire qu'à un certain âge ils ont fait le tour de la vie que vous et moi on pourrait mener. Ils ont finalement voyagé, ils ont gagné leur vie, ils ont fondé une famille, ils ont eu un travail, ils sont reconnus. Alors, une fois qu'ils ont fait ce tour à deux, fusionné, ils commencent à se poser la question d'essayer autre chose en étant séparés. Mais ça se heurte toujours au problème que médicaux, savoir est-ce que c'est possible, et si oui, est-ce qu'ils survivraient tous les deux?
Alors vous avez cette phrase, nés semblables, ils aspiraient à mourir différents, ou encore Cheng et Heng avaient insisté auprès de Barnum pour que la tournée débute en Écosse. Ils plaçaient de vifs espoirs dans leur rencontre avec Sir James Young Simpson, le renommé professeur de l'université d'Édimbourg. Ce dernier avait découvert et généralisé l'usage du chloroforme en tant qu'anesthésique, permettant ainsi de réaliser des interventions que l'on jugeait impossibles auparavant. Je dirais qu'ils sont nés en couple et qu'ils aspirent à la vie en solo.
Oui, ils aspirent à ne plus être ensemble, et c'est même la raison pour laquelle ils repartent sur les routes. Hein, c'est-à-dire qu'après cette longue période de vie conjugale familiale, de vie de cultivateur-planteur, une des raisons principales qui font qu'ils repartent en tournée, donc avec Barnum, qui organise pour eux ces tournées internationales, c'est l'espoir de rencontrer quelque part sur la planète le chirurgien qui pourrait les séparer. Mais ils sont à ce moment-là victimes d'une ironie terrible de la vie, c'est que ils sont devenus tellement célèbres que à ce stade-là, il faut imaginer leur notoriété à l'époque où il n'y a quand même pas les réseaux sociaux, les médias aussi puissants qu'aujourd'hui. Ils ont quand même rencontré à l'époque la reine Victoria, Abraham Lincoln, le tsar Nicolas, les artistes dont on a parlé en France. Je dirais qu'ils ont un degré de notoriété mondiale comme si aujourd'hui George Clooney et Brad Pitt étaient fusionnés par le sternum. Il faut imaginer ça. Et donc, il n'y a plus aucun médecin qui veut les opérer, même si c'est peut-être devenu possible. Qui irait prendre le risque de tuer soit les deux, soit l'un des deux? C'est impossible. Et donc, ils sont totalement victimes de cette ironie très cruelle du destin. C'est que la vie les a amenés à un tel niveau où finalement, on pourrait dire, la vie les a acceptés, la société mondiale les a acceptés tellement qu'aujourd'hui, on ne les laisse plus envisager de se séparer. C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable. On va faire une petite pause musicale et nous reprenons notre conversation, Laurent Benegui.
Try to strip and spin it. Yeah.
Et oui, vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4 en compagnie de Laurent Benegui, qui vient de publier un livre passionnant, Les étoiles doubles aux éditions Julliard. Alors Laurent Benegui, c'est vrai, je dis, la vie de ces deux frères siamois, Cheng et Heng, elle est passionnante. Et vous écrivez aussi, leur passé forain se rappela à eux lorsque le docteur Galloway, en visite à Mount Airy, leur offrit l'édition d'une pièce de théâtre intitulée Les jumeaux siamois, une farce romantique écrite en 1834. Par le dramaturge anglais Gilbert Abbott à Beckett. La pièce avait été composée à la suite de leur prestigieuse tournée dans les îles britanniques. Le texte avait traversé l'Atlantique. C'est que ces deux personnages, bien avant vous d'ailleurs, sont déjà des personnages de romans. Voilà, on passe de l'autre côté du miroir.
Ah oui, il y a plusieurs auteurs qui, par le passé, se sont déjà emparés de leur destin. Donc je n'ai pas inventé hein, cette pièce-là de Abbott à Beckett a vraiment existé. Alors c'est une farce, hein, c'est vraiment une farce. Dans le roman, j'invente que justement on leur fait découvrir le texte et qu'ils rigolent eux-mêmes des bêtises que ce type a pu écrire sur eux. Par exemple, ils sont cités dans un roman de Herman Melville. Il y a Mark Twain qui a écrit des choses sur eux. C'est-à-dire que ce sont des vedettes de l'époque. Donc on écrit sur eux à l'époque. Ce que moi la petite facétie que je me permets, c'est de les faire rencontrer les passages qui les concernent, quoi.
Oui, alors, et en plus, par exemple, aussi leur lecture. Vous parlez de leur découverte de leur lecture. En 1873, ils se procurèrent un exemplaire du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, qui venait d'être traduit en anglais. La course au Tour du Monde de Phileas Fogg et de Jean Passepartout les fascina en les replongeant dans les mouvements incessants de leur propre existence. La lecture de l'ouvrage était faite à haute voix par Heng. Chang écoutait avec intérêt, sans boire d'alcool ou s'assoupir. Donc l'un est lecteur de l'autre.
Oui, et toute leur vie, alors Heng était beaucoup plus cultivé et plus intéressé par la littérature. Il apprend pratiquement l'anglais aussi en découvrant et en lisant Shakespeare. Et Chang était un peu plus rustique, on va dire. Voilà. Mais ça leur va très bien d'ailleurs. Hein. Chang dit à un moment, c'est bien, il y en a un qui pense, l'autre qui agit. Enfin, ils sont très complémentaires, d'où leur succès, hein, d'où leur survie et leur succès. Et effectivement, Heng lit pour Chang, Heng lit les journaux pour Chang dans la période, juste par exemple, où ils ont très très peur qu'éclate la guerre de sécession. C'est Heng qui lit les journaux et qui commente l'actualité politique de l'époque.
Alors, ce sont des êtres aussi, enfin je dirais que c'est la tête et les jambes, leur complémentarité, mais ce sont des êtres multiculturels, chrétiens au gré des circonstances, bouddhistes de naissance, pragmatiques par nécessité. Ils considéraient désormais le cycle de la vie et de la mort avec plus de sagesse et de réflexion que la plupart de leurs contemporains. C'est vrai qu'ils voient double, si on peut dire.
Oui, vous rendez compte, ils ont vécu, on pourrait dire double, puisqu'ils ont vécu deux fois les mêmes expériences avec des filtres différents qu'ils ont pu évidemment partager et communiquer j'imagine que le soir ils se racontaient ce qu'ils avaient pensé de la journée et qu'il y avait en permanence un double regard sur la vie. Des mentalités différentes qui fait qu'ils prenaient les choses de manière extrêmement ouverte et variée, et puis surtout soumis depuis leur naissance à tous ces ostracismes physiques, religieux, couleur de peau, et puis quelque chose dont on n'a pas parlé, une différence sociale très très forte avec les gens avec qui ils vivent. Ils sont quand même nés fils de pêcheurs d'un fleuve asiatique, donc des gens très pauvres qui vivent en attrapant un ou deux poissons par jour, côtoyer la haute aux États-Unis, en Europe, en Europe, en Angleterre, en France, en Russie, accueillis dans les palais. Habillés très richement à la fin de leur vie, donc ils ont une véritable notion d'ordre social, ils savent ce que ça veut dire la différence sociale, et tout ça évidemment leur façonne à mon avis, une intelligence et une capacité de raisonnement bien supérieure à celle de leurs semblables. Enfin, qui sont d'ailleurs pas leurs semblables.
Oui. Mais c'est vrai, ils ont surmonté toutes les difficultés. Et puis, avec, je reviens à cette règle des trois jours dans leur couple, et c'est vrai que si le jumeau d'accueil avait affaire à l'extérieur, la règle continuait de s'appliquer. Le jumeau visiteur, ça j'ai bien aimé, l'accompagner sans se mêler de ses affaires. Donc, c'est aussi, ils sont très modernes. J'allais dire que chacun, ils ont une sorte d'union libre, on pourrait dire, leur conjugalité à eux.
Bah, leur conjugalité réelle avec leur femme et puis leur conjugué, leur fusion en fait les rend obligés d'avoir une... mais ils n'ont pas eu le choix. Fusionner avec son frère, comment ne pas inventer une forme de liberté puisqu'on est finalement condamné à vie à être enchaîné à l'autre. Alors il faut s'évader autrement, il faut accepter. Mais encore une fois, ça c'est notre vision à nous d'être unique. Eux sont nés comme ça, donc eux pour eux il n'y a pas de problème en fait. Le problème vient que des autres. De toute façon c'est toute la question de l'altérité. Il y a aucun problème à être comme ils sont, ils l'ont démontré quoi. C'est-à-dire que quoi qu'on veuille opposer comme argument, ils font leurs besoins comme tout le monde, ils mangent comme tout le monde, ils aiment comme tout le monde, ils dorment comme tout le monde, ils pensent comme tout le monde, voire mieux. Donc en fait, elle est où la différence ?
Ah, ils ne mourront pas comme tout le monde.
Bah non, alors je sais pas si on révèle leur mort. Ils vont mourir, on peut juste dire aux gens qu'ils vont mourir. Mais ils ont vécu, ils meurent à passer 60 ans. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, ce sont donc des personnes âgées et que beaucoup de gens uniques, sans avoir une sœur ou un frère attaché aux côtés, sont morts bien avant leur âge. Ils ont une longévité exceptionnelle.
Et alors justement, vous dites leur longévité exceptionnelle a permis que leur vie soit un plaidoyer pour le droit à la différence. C'est l'une de vos dernières phrases, je crois, Laurent Pénic.
Oui, je voulais vraiment conclure le livre sur cette idée qui est l'idée phare. C'est que leur vie est d'abord une lutte pour acquérir le droit à être différent et que quand on examine cette vie, dans sa complexité, hein, puisque je disais tout à l'heure qu'ils avaient eu des esclaves, donc... rien n'est totalement évident pour personne finalement. Donc eux, ils sont victimes d'ostracisme, mais ils ont des esclaves. Mais grosso modo, le schéma global est celui d'une lutte pour avoir le droit de ne pas être comme les autres, pour avoir le droit d'être différent. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Ça résonne tellement avec tout ce que l'on vit aujourd'hui. Et je crains que chaque semaine où je m'exprime sur le sujet devienne de pire en pire. Donc sur ce qu'on vivra à terme, il faut accepter les autres. Il faut accepter les autres. Il faut accepter les différences. Il faut être faire preuve de tolérance et de respect pour les autres. Et eux, ce sont une illustration absolument parfaite de ces phrases.
Ça nécessite une évolution intérieure.
Oui, une évolution intérieure de chacun, et c'est ce qu'ils ont su faire, c'est ce que nous on devrait, peut-être qu'on devrait, nous attacher un frère ou une sœur pour être un peu plus rationnel et un peu plus empathique et respectueux des autres.
Alors, je voudrais revenir sur l'écriture de ce roman. Combien de temps vous l'avez écrit? Parce que ça demande quand même de la documentation. Est-ce que vous avez cherché d'abord de la documentation? Comment vous avez... C'est un sacré travail de recherche aussi.
Bah, ça correspond presque à 2 ans et demi, 3 ans de travail. Alors, j'écris pas pendant 3 ans, 8 heures par jour, mais ça a été mon ce qui m'a concerné dans le travail pendant 3 ans, avec d'abord une phase de recherche. Je me suis assez vite rendu compte, on trouve assez facilement sur internet 2-3 choses, mais qui sont souvent assez fausses. Enfin, je dis qu'elles sont fausses parce que maintenant j'ai recroisé, et sans être un expert, je commence un peu à connaître le sujet, donc je me rends compte qu'on dit beaucoup de bêtises. Et là où j'ai trouvé les sources les plus intéressantes, c'est dans des documents américains, donc j'ai traduit des choses de l'anglais. J'ai travaillé aussi d'après des choses historiques. Par exemple, toute la partie sur Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, je l'ai écrit en me référant à sa communication à l'Académie des sciences qui date de 1829, si je ne m'abuse, que j'ai trouvé en cherchant. Et donc j'ai lu le texte et j'ai exploité une partie de ce texte. Et j'ai même attribué des propos en faisant de Saint-Hilaire un personnage du roman. Après, le travail du romancier, vous voyez, par exemple, quand je travaillais sur Saint-Hilaire, en lisant une biographie, je découvre qu'il avait des sœurs jumelles. Alors évidemment, je me dis, ben oui, on s'intéresse pas par hasard aux jumeaux ou aux jumeliers, et il se trouve que lui-même a des sœurs jumelles, que son père était naturaliste. Donc ça aide le romancier que je suis à construire un vrai personnage de fiction à partir de ça. Mmh. Donc en fait, moi, de toute façon, je me documente toujours beaucoup quand j'écris un roman. Parfois, la documentation, je suis pas toujours sur des sujets historiques, mais ça va être d'aller interviewer quelqu'un dont c'est le métier, qui pratique le métier dont j'ai envie de parler. Mmh. Et donc, je fais ça souvent. À chaque livre, je vais voir, je ne sais pas, un avocat, une professeure dans un domaine, j'interviewe, j'écoute, et à partir de ça, je reviens chez moi avec un matériau de vérité qui fait le terreau de la fiction. Mmh. Donc pour ce roman, en fait, j'ai envie de dire, quantitativement, j'ai eu plus à travailler que d'habitude en termes de documentation, parce que quand j'écris sur le Siam de 1811, ben il faut que je lise des livres, hein, sur le Siam, sur qui étaient les rois du Siam, quel était le système politique. Et il se trouve que je suis allé souvent voyager en Asie du Sud-Est, donc ça m'a aidé parce que je connais les décors. Et à partir de ça, j'élabore de la fiction. Mais des choses sont vraies, des choses sont fausses. Moi, je m'amuse beaucoup à mêler le vrai du faux. Et dans tout ce qu'on a dit là, par exemple, rien qu'aujourd'hui, dans ces émissions, il y a des choses qui sont inspirées de choses vraies et des choses totalement fausses que j'ai inventées. Mon job, j'ai envie de dire, c'est que le lecteur ne sache pas et n'ait pas envie même de faire le tri. Je suis un kidnappeur. Je kidnappe des destins, je kidnappe des situations, et j'en fais un roman dicté. Pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est la notion de personnage. Ça m'intéresse plus de savoir à qui arrive quelque chose que de savoir ce qui lui arrive. Après, c'est du roman, donc j'essaie en plus que ce soit pas trop mal écrit. Mais disons que là, par exemple, pour ce texte-là, j'ai eu deux obstacles, hein, dont j'ai déjà parlé, qui étaient quel point de vue je vais adopter pour parler de ces deux frères. Et le deuxième obstacle qui m'a vraiment bloqué un moment dans l'écriture, c'est qui sont les deux femmes qui les épousent. Mmh. Parce que ça, j'ai rien trouvé. Il n'existe rien sur leur caractère. On trouve une fiche d'état civil, on sait quel jour ils se sont mariés, publication des bans, etc. Mais au fond, personne ne nous dit ce qu'elles avaient en tête. Elles ont, je crois, 19 ans quand elles se 19 et 20 ans quand elles les épousent. Et donc, et j'avais envie, par rapport au sujet et la manière dont le sujet aborde la question des différences, de l'altérité, et comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, qui croise beaucoup des sujets de notre époque contemporain, je me disais, il faut que les femmes soient fortes. Il faut que ces femmes-là rayonnent dans le livre. Il faut qu'elles aussi, elles embrassent des sujets de notre époque. Donc l'une est vraiment féministe, hein, et quasiment elle les épouse par conviction que si c'est son destin, elle a le droit de l'exercer, peu importe ce que pensent ses parents, la société, etc. L'autre est plus aventurière, voyageuse, ayant envie de découvrir le monde. Mais quoi qu'il en soit, par exemple, tant que je les ai pas eus, j'ai failli dire au bout de la plume, même si c'est un clavier, je pouvais pas écrire, en fait.
Ouais.
Je pouvais pas même résoudre la question de leur sexualité.
Mais est-ce que vous avez un plan? Bon, là, c'est le plan chronologique, mais il y a quand même un plan. Est-ce que vous suivez minutieusement votre plan? Est-ce que vous faites des embardés? Est-ce que c'est avant tout le personnage qui vous nourrisse?
Alors, avant tout, ce sont les personnages. J'ai un plan, et j'aime bien le mot que vous avez dit là, embardé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pars. C'est vrai que là, décider d'être chronologique facilite les choses, parce que on sait que j'avais des repères, beaucoup des repères sont trouvables par n'importe qui. Hein, qu'un jour ils arrivent à Boston, qu'un jour ils vont en Angleterre, qu'un jour ils se marient. Ça c'est voilà. Et donc j'essayais d'aller de repère en repère, mais uniquement guidé par la crédibilité, la légitimité psychologique des personnages, donc de Chang et de Heng dans la première partie, puis de Chang, de Heng, de Sarah et d'Adélaïde dans la deuxième. Mmh. Et je pense qu'à partir du moment où le comportement des personnages sont crédibles dans un roman, alors toute situation est crédible, y compris par exemple une union à quatre d'où venaient 21 enfants.
Est-ce que vous pensez à votre lecteur ou à votre lectrice ?
Eh bien, j'ai honte, mais pas du tout. Non, mais en fait, ça veut dire quoi, penser à eux ? J'espère qu'il y en a qui auront envie de lire le livre. Mais je me dis, j'écris pour faire penser ça. J'écris pas par séduction du tout. Alors après, je suis pas maso, j'écris pas par répulsion non plus, j'essaye de glisser dans mon écriture des thématiques qui me sont chères à un moment donné, celles dont on a parlé là aujourd'hui.
Vos admirations littéraires?
Alors, il y en a pas mal, c'est toujours une question un petit peu compliquée. Alors, il y a des livres, il y a pas un auteur, il y a des auteurs, voilà. Alors je pourrais citer, justement, je l'ai cité tout à l'heure, ça m'a fait très plaisir, c'est Melville, Herman Melville. Quand j'ai vu qu'il avait un moment cité les frères Siamois dans un de ses livres, ça m'a fait plaisir parce que, par exemple, je considère que Moby Dick est un des meilleurs romans jamais écrits. On connaît Moby Dick, les autres livres de Melville aussi, hein, mais Moby Dick, on connaît à cause du film de John Huston, que moi je trouve pas très réussi. Le roman est formidable, parce que le roman, c'est pas juste un roman d'aventure, c'est métaphysique, donc Melville...
Traduit par Giono.
Oui, traduit par Giono, oui. Et... Georges Samprin, L'écriture ou la vie, si vous voulez lire un livre qui va forcément vous arracher des larmes, et c'est sublime sur comment l'écriture peut arriver à dire l'indicible, hein, en l'occurrence l'expérience des camps de concentration. Il y en a tellement. J'aime beaucoup des auteurs un peu plus drôles. On va aller vers les auteurs anglo-saxons. J'aime beaucoup un auteur anglais qui s'appelle Nick Hornby. Qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle High Fidelity. Voilà, j'aime beaucoup ce regard un peu très ironique sur la vie de Nick Hornby. Il y en a tellement. J'aime Marguerite Yourcenar. Je me rends compte, je suis pas très contemporain, mais c'est un peu compliqué de parler des copines et des copains. Déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture ?
Alors, ils ont évolué au fil de ma vie. J'étais plutôt du soir, je suis plutôt du matin. Je crains que ce soit le début de mon déclin. J'ai découvert l'écriture tôt le matin en ayant des enfants. Parce qu'une fois qu'on est levé tôt, qu'on les emmenait à l'école, on arrive chez soi et voilà. Enfin, c'est pas très tôt pour plein de gens, j'ai un peu honte de dire ça. Mais voilà, j'aime bien écrire le matin maintenant. Ouais, j'aime bien organiser ma vie sur deux... Voilà, un premier temps le matin d'écriture, et un deuxième temps l'après-midi où je vaque au quotidien.
Voilà. Est-ce que vous organisez des ateliers d'écriture, Laurent Benegui ? En quoi cette expérience est enrichissante pour vous ?
Alors j'adore ça. Je les organise. C'est pas moi qui les organise. Je travaille dans une école qui s'appelle Les Mots, rue Dante à Paris, qui a la particularité d'être une école où tous les profs sont des écrivains. Donc il n'y a pas de théoriciens avec des praticiens. Voilà. Et pour moi, ça a été une découverte et une expérience extrêmement enrichissante. Un, de transmission, évidemment. Et puis ça m'a obligé à formuler, par rapport à mon travail, je suis plutôt une formation scientifique. Donc je n'ai pas fait d'université, de littérature, de fac de lettres, tout ça. J'en conçois d'ailleurs parfois un petit complexe. Je me dis toujours, mais si je savais plus de choses. Mais après, j'aime bien aussi être un peu un empirique de l'écriture. Mais disons que cette non-formation universitaire a fait que quand j'ai dû moi enseigner, je me suis mis à devoir mettre sur le papier, verbaliser, formuler des choses qui concernent l'écriture et la littérature. Et cet exercice-là, j'ai beaucoup aimé le faire, égoïstement, et puis ça m'est très utile dans ma propre écriture.
Est-ce que vous vous relisez ? Est-ce que vous relisez les livres que vous avez publiés ?
Eh bien non, jamais. Je me relis énormément. Hein. Quand j'écris, je relis, mais parfois, je pense qu'il y a des passages que j'ai relus, retravaillés 1000 fois. C'est pas une blague. Et alors après, non, je n'ai jamais relu aucun de mes livres. Et j'ai fait l'expérience, j'ai fait très rarement l'expérience d'en ouvrir un à une page au hasard, de lire le texte. Et franchement, j'ai l'impression que c'est un inconnu qui l'a écrit. Ça, c'est terrible. Je sais pas ce que je dois en penser, à vrai dire. Je me dis, mais voilà, c'est. Alors on parle, ouais, j'en ai publié 15, donc effectivement, c'est quoi, sur une trentaine d'années quand même. Donc c'est un peu normal, hein. Des livres que j'ai écrits il y a 20 ans, je peux pas me souvenir de chaque mot. Et surtout, on évolue, en fait. C'est très organique, un livre. Pour le lecteur, le livre, c'est cet objet de papier qui va être quasiment identique pendant des dizaines d'années, voire des siècles, hein. Mais pour celui qui l'a écrit, il est le témoin de ce qu'on était comme auteur le jour, l'année où on l'a écrit. 20 ans après, je suis plus le même, je pense plus pareil, j'ai plus les mêmes expériences de la vie. J'imagine même qu'on peut être tout à fait en désaccord avec ce qu'on a pu écrire 20 ans avant, par exemple. Et donc, ouais, j'ai jamais relu. Bon, après, il y a tellement de livres à lire, quoi. Ouais. Tellement d'autres livres.
Est-ce que le titre, vous y pensez? C'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que vous l'avez avant ou est-ce que le titre peut venir après?
Alors, j'ai toujours un titre dès le début, mais je sais qu'une fois sur deux, il va changer. Je pourrais dire ça statistiquement sur mes bouquins. Une fois sur deux, alors soit il change en cours de route, soit aussi, alors ça rejoint la question que vous me posiez sur le plan. Hein, finalement, on a un titre qui correspond à un projet de livre, et puis on écrit, puis les embardés, les personnages vous emmènent ailleurs, et peu à peu, vous rendez compte que le point important n'est pas celui que vous croyiez au départ. Et donc, le titre change. Et puis après, il y a aussi des fois où le titre change parce que vous avez une discussion avec votre éditeur et il vous convainc que pour des raisons, allez, soit de commercialisation du livre ou parce que tout simplement le regard d'un autre fait que il voit votre livre autrement que vous-même vous le voyez. Il y a donc des discussions qui sont toujours des discussions d'un commun accord. Et il m'est arrivé de changer des titres aussi. Peu avant la sortie du roman.
Est-ce qu'on pourrait dire que votre roman Les Étoiles Doubles, c'est le roman d'une émancipation? Comment s'émanciper de son corps? Comment s'émanciper de sa vie? Comment les femmes aussi, l'émancipation des femmes, aller contre les clichés d'une époque?
Ben, je dirais pas mieux que vous. Non, je dirais émancipation et résilience. Capacité à surmonter les obstacles incroyables chez ces deux êtres qui doivent nous servir de leçon. Je pense que vraiment leur vie est à lire pour nous servir de leçon dans notre propre vie.
Est-ce que pour vous, ça sera ma dernière question, est-ce que écrire, c'est sortir de sa zone de confort? C'est s'aventurer vers un ailleurs? C'est se remettre en question? Est-ce que il y a des livres qui ont changé votre vie?
Alors, c'est beaucoup de questions à la fois. Changer ma vie, je sais pas, je répondrai à la fin. Ce qui est sûr, c'est sortir de sa zone de confort. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point chaque livre est le premier. Alors, puisque vous citiez mon expérience d'enseignement, effectivement, j'enseigne à des gens qui eux, en général, rêvent d'écrire, d'être publiés pour une première fois. Et je constate en les écoutant parler que je pense comme eux. C'est-à-dire que, est-ce qu'après le 13e livre, il y a un 14e? Est-ce qu'après le 14e, il y a un 15e? Je sais que je suis un peu plus rompu à l'exercice de l'écriture et de l'affrontement avec la publication. Néanmoins, je ne sais jamais si moi je serais capable. Et même à l'intérieur de chaque livre, alors par rapport à la zone de confort, c'est très très clair. Chaque livre est un projet, est une montagne à gravir. Et il y a un moment où je sais que j'ai passé le sommet. Mais je ne sais jamais vraiment quand ça va être. Et où je sais que le livre va exister quoi qu'il arrive. Mais ça peut durer des mois pendant lesquels, voire, vous voyez, ce livre, c'est 3 ans de travail, quand est-ce que j'ai vraiment été sûr que j'allais y arriver un an avant, quoi. Donc pendant 2 ans, on se dit, est-ce que je vais en être capable? Et là, ça n'a rien à voir avec la question d'un éditeur, d'une publication, hein. C'est est-ce que je vais réussir à mener cette bagarre de tous les matins, de trouver les phrases, les mots pour le dire, voilà. Alors, est-ce qu'un livre a changé ma vie? Pas un particulièrement. Il y a des livres qui marquent des étapes, soit parce qu'ils ont mieux marché, soit parce que l'un a été adapté au cinéma, soit parce que celui-là est très drôle, alors tout le monde vous en parle tout le temps. Mais au fond, moi, ce qui a changé ma vie, c'est d'écrire des livres. Mmh. C'est de choisir un jour que ma vie, ce serait de d'écrire des livres et de les raconter. Parce que c'est non seulement un choix personnel, intellectuel, mais c'est aussi un choix par rapport aux autres. Ça veut dire... c'est une question qu'on vous pose. Ah, t'écris des livres, vous écrivez des livres. Et... Oui, mais vous faites quoi comme métier? Ben, c'est ça, mon métier.
Et vous avez des projets actuellement?
Ben, je commence à réfléchir au prochain livre. Oui.
Bon.
Je suis sur le prochain, mais je suis dans la phase où je commence à peine à gravir la colline.
Bon. Merci à vous, Laurent Benegui.
Ben, moi, merci à vous de m'avoir reçu. C'était très bien.
Voilà, l'émission Bibliomanie est terminée. Surtout, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Libertaire pour télécharger ou réécouter cette émission. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur de lecture et je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles escapades littéraires.
on him.